Radio Prague, les informations.
Bonjour, le président Václav Klaus a appuyé l'amendement à la loi sur le soutien aux sources d'énergie renouvelables qui devrait supprimer l'aide publique à la construction de nouvelles centrales photovoltaïques. L'amendement est discuté ce mardi à la Chambre des députés. Le ministre de l'Intérieur, Radek Yon, tacle l'Union européenne sur la question des visas canadiens. Le prix à la consommation en République tchèque ont légèrement baissé en octobre. Le président de la République, Václav Klaus, a effectué ce mardi une visite au ministère de l'Environnement. L'entretien qu'il a eu avec le ministre Pavel Drobel du Parti civique démocrate, ODS, a porté essentiellement sur les centrales photovoltaïques, dont le développement considérable ces dernières années pourrait augmenter le prix de l'électricité pour les consommateurs tchèques. À noter que la Chambre des députés devrait ratifier ce mardi un amendement à la loi qui vise à supprimer l'aide publique à la construction de nouveaux parcs solaires. Le président Klaus a fait savoir qu'il soutiendrait toutes les modifications des lois censées limiter le développement de ce secteur et les impacts de ce dernier sur le prix de l'électricité. Et puis le chef de l'État et le ministre Pavel Drobel ont également discuté de la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui aura lieu en décembre au Mexique. D'après le ministre de l'Environnement, la République tchèque souhaite que le sommet analyse les conséquences de la lutte contre le réchauffement climatique pour l'économie mondiale. Les engagements européens en matière de réduction des émissions polluantes n'étant pas une priorité du ministre tchèque. Le ministre de l'Intérieur, Radek Yon, a critiqué lundi à Bruxelles la Commission européenne pour sa position dans la question des visas canadiens imposés à la République tchèque. Le Canada a réintroduit l'obligation de visa pour les ressortissants tchèques en juillet 2009 devant l'augmentation des demandes d'asile en République tchèque. La Commission européenne a soutenu Prague à plusieurs reprises et avait même considéré imposer des visas aux diplomates canadiens. Vendredi, un rapport de la Commission a toutefois souligné le progrès accompli côté canadien et précisé qu'aucune mesure spéciale n'était nécessaire. Les prix à la consommation en République tchèque ont légèrement reculé de 0,2% en octobre comparé à septembre, a rapporté mardi le Bureau national des statistiques. Cette baisse est notamment imputable à celle des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées, des boissons alcoolisées et du tabac, ainsi que des loisirs et de la culture, a précisé le Bureau des statistiques dans un communiqué. Un autre chiffre publié par le ministère du Travail et des Affaires sociales, cette fois-ci, le taux de chômage en République tchèque est resté à 8,5% en octobre. D'après la télévision privée Nova, le ministre des Transports, Vít Bárta, des Affaires publiques, s'est vu infliger un retrait de permis et une amende de 5000 couronnes pour avoir conduit son véhicule sans plaque minéralogique officielle. Le ministre ne pourra pas conduire jusqu'en mai prochain. C'est la toute première fois qu'un ministre des Transports en exercice subit un retrait de permis. Vít Bárta a fait savoir qu'il ne ferait pas appel de la décision. Ce 9 novembre, 30 ans se sont écoulés depuis le décès de la peintre surréaliste Touayen à Paris. Née Maria Cherminova, elle est l'une des plus importantes représentantes de l'avant-garde artistique tchécoslovaque de la première moitié du XXe siècle. Amie d'Éluard, Breton, Nesval et d'autres représentants du surréalisme français et tchèque, elle est partie en 1947 en France où elle a continué à créer dans le cadre du groupe d'André Breton. Entre 47 et 62, il y a bénéficié de 7 expositions personnelles. En tennis, au Masters de Paris-Bercy, le joueur de tennis tchèque Radek Štěpánek a passé sans difficulté le premier tour. Il a battu en 49 minutes l'Américain Michael Russell en 2-7, 6-2, 6-0. Prochain adversaire du Tchèque, l'Espagnol Nicolas Almagro, qui l'a déjà affronté et vaincu. L'objectif pour Radek Štěpánek, arriver au moins en demi-finale, comme l'an dernier. Et puis, côté météo, le ciel est plus dégagé ce mardi, jour de fête des Bohdan en République tchèque, mais les températures sont à la baisse de 5 à 9 degrés pour les maximales, sauf en Moravie, où elles pourraient encore se maintenir aux alentours de 12 degrés. C'était le bulletin d'information par Magdalena Hrozinková. Tout de suite, faisait événement en République tchèque avec Alena Gebertová.
Faisait événement en République tchèque.
Il n'y a plus que la France, la Grèce ou la Grande-Bretagne qui sont confrontées à des grèves. Le phénomène touche désormais aussi la République tchèque, qui devrait connaître bientôt la plus importante grève de son histoire. Nous vous en dirons plus. La syphilis est de retour dans le milieu de la prostitution tchèque. Ce sera le deuxième thème de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque. Nous rappellerons encore le festival consacré aux minorités sexuelles intitulé Mezipatra Mezanin. Bonne écoute. La vague de grèves et de protestations qui touche l'Europe touche aussi la République tchèque. Dans un mois, le pays sera en partie paralysé par une grève qui aura un caractère plus massif que jamais auparavant. La décision a été annoncée lundi. D'après les représentants des syndicats, fini le dialogue social, l'heure est venue désormais de sortir dans la rue. La protestation organisée sous la houlette des syndicats est dirigée contre le projet du gouvernement de réduire la masse salariale dans la sphère publique de 10%, une mesure qui toucherait 600 000 employés. Jaroslav Zavadil, président de la Confédération des syndicats.
Ce n'est que le mercredi 8 décembre que l'on verra combien de personnes voudront effectivement participer à cette grève. Ce sera bien sûr aux employés de la sphère publique eux-mêmes de décider s'ils veulent soutenir la grève ou pas. Nous avons toutefois un mois pour tout préparer et pour engager le maximum de personnes. La forme de la grève est claire, elle durera toute une journée. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
Le rassemblement prévu pour le 8 décembre devrait être soutenu, ne serait-ce que symboliquement, par les employés des secteurs qui ne sont pas directement touchés par les réductions envisagées, les membres de la police et les sapeurs-pompiers. Petr Nečas, chef d'un gouvernement qui se présente comme celui de la responsabilité budgétaire, demeure quant à lui catégorique.
C'est une mesure qui est nécessaire. Voilà pourquoi le gouvernement ne peut pas fléchir et abandonner la voie entamée.
La dernière grève en date en République tchèque est celle de septembre dernier à Prague et qui a réuni près de 40 000 employés qui ont manifesté contre les mesures d'austérité du gouvernement. La grève à ce jour la plus massive, avec un soutien de près d'un million de personnes, s'est tenue en 2008. Elle n'a duré cependant qu'une heure. La prochaine grève a donc tout pour devenir historiquement la plus grande grève en République tchèque. Mais tout indique que les protestations ne s'arrêteront pas là. Les syndicats s'en prennent aussi dès aujourd'hui vivement à la réforme radicale de la santé publique, préparée par le ministre Leos Heger. L'éventualité de lancer une grève générale est dans ce contexte de plus en plus souvent évoquée dans les milieux syndicaux. Une association spécialisée dans l'aide aux prostituées, Roskosh bez rizika, Plaisir sans risque, rapporte que la syphilis, une infection sexuellement transmissible, est de retour dans le milieu de la prostitution en République tchèque. Plus d'une trentaine de femmes ont déjà été diagnostiquées cette année, alors que la maladie avait quasiment disparu. Alexis Rosenzweig pour plus d'informations.
39 cas de syphilis diagnostiqués sur un peu plus de 2000 prostituées testées cette année. C'est le bilan inquiétant publié par l'association Roskosh bez rizika qui dans le même temps révèle que seulement deux de leurs patientes ont été contaminées par le VIH. Zdenka Smolikova est une des infirmières qui travaille pour l'association.
On peut dire que la syphilis est assez répandue parce qu'il ne se passe pas une semaine sans que nous ayons un cas suspect. Par ailleurs, le chancre se forme en général sur le col de l'utérus où il n'est pas visible et où il est quasiment indolore. Donc les patientes ne se doutent pas qu'elles sont contaminées ou alors pensent qu'elles ont seulement une angine et ne vont pas consulter.
La syphilis, appelée aussi grande vérole, serait en général transmise par des clients qui refusent le préservatif. Selon Yana Polakova, travailleuse sociale, la crise a fait baisser le nombre de ses clients. Les prostituées voient donc leurs revenus baisser et sont contraintes d'accepter des relations non protégées. La directrice de l'association Roskosh bez rizika, Hanna Malinova, est elle-même une ancienne prostituée en écoute.
Je le sais de ma propre expérience, je n'aurais pas gagné un sou parfois si j'avais insisté pour que le client mette un préservatif. Il y a un changement aujourd'hui. Plus de la moitié des cas de syphilis ont été diagnostiqués chez des ressortissantes tchèques. Avant, la syphilis était une maladie contractée en majorité par des étrangères. Maintenant, sur 39 cas, il y en a 22 qui sont des tchèques.
Et Hanna Malinova d'ajouter que le phénomène est d'autant plus inquiétant que les malades de la syphilis ont 500 fois plus de chances d'être contaminés par le VIH. Les prostituées ne sont pas les principales victimes de ce qu'on appelle aussi parfois la maladie de Cupidon. Selon les statistiques publiées par les autorités sanitaires tchèques, environ un millier de personnes en tout auraient contracté la maladie cette année dans le pays. Une maladie qui avait rendu sourd le célèbre compositeur Bedřich Smetana et qui n'appartient toujours pas au passé.
Mezipatra Mezanine, tel est le titre du festival du film consacré à la différence sexuelle qui a commencé dans la ville de Brno en Moravie. Le public a l'occasion de voir des films sur l'homosexualité, la bisexualité et la transsexualité jusqu'au 9 novembre et ensuite le festival se déplace à Prague où il se poursuivra encore une semaine. Des films choisis seront projetés aussi dans d'autres villes du pays.
C'est déjà l'11e édition de cette manifestation qui se définissait à ses débuts comme le festival du film homosexuel. Depuis ce temps-là, les organisateurs ont cependant bien élargi cette définition et le présentent désormais comme le queer festival. En utilisant le terme international queer étrange, ils désirent libérer le spectateur de la perception traditionnelle des identités sexuelles et de la conviction que l'hétérosexualité est la seule orientation sexuelle possible. Le directeur du festival, Aleš Rumpel, présente les particularités de l'11e édition.
Nous ouvrons le festival à Brno et à Prague par le film Howl sur Allen Ginsberg, un film que l'association des ciné-clubs présentera dans les salles ici. Je pense que c'est un bon choix car le film reflète le thème de cette édition qui est le grand art. C'est à travers ce thème que nous suivons non seulement la vie d'auteurs importants, mais nous nous interrogeons aussi sur la créativité, sur les obstacles qu'elle doit surmonter et sur le rapport entre le créateur et le spectateur.
Tous les ans sont réalisés dans le monde d'innombrables films sur la différence sexuelle et les organisateurs de Mezipatra ont l'embarras du choix. Lucia Kajankova, responsable du programme du festival, explique les critères qui sont décisifs pour la sélection finale.
Nous voulons mettre en compétition les films les plus variés, films rétro, films documentaires, courts-métrages, mais tout cela devrait être rassemblé sous un thème majeur. Cette année, c'est donc le grand art. L'accent est mis sur les films queer, films sur les artistes, films sur l'art, films qui racontent comment une œuvre cinématographique devient une œuvre d'art, ce qui est le cas du film Open du réalisateur Jake Usna. En même temps, ces films ont une grande valeur artistique.
Aleš Rumpel déplore que malgré la riche production de films de ce genre dans le monde, les spectateurs tchèques n'ont que rarement la possibilité de voir ces œuvres dans la distribution normale. Lui et ses collaborateurs cherchent donc à combler une lacune de la distribution tchèque.
La présentation des films queer dans la distribution tchèque, dans l'offre des films que le spectateur ordinaire a la possibilité de voir au cours de l'année, est très variable et instable. Cette année, nous avons eu la chance de voir dans les cinémas tchèques des films comme I Love You Philip Morris ou A Single Man. Maintenant, entre dans la distribution Open et Les Amours Imaginaires. Mais en général, bien qu'on tourne beaucoup de films queer intéressants, ils ne sont pas distribués dans les salles tchèques.
Au cours de la dernière décennie, 75 000 spectateurs et spectatrices ont assisté aux manifestations du festival. Les sondages réalisés lors des dernières éditions démontrent que parmi eux, la moitié étaient des hétérosexuels.
Plusieurs événements culturels sont ou seront à retenir à Prague. Je parlerai d'abord du festival de théâtre de langue allemande qui se déroule à Prague pour la 15e fois déjà, et ceci jusqu'au 17 novembre. Les organisateurs du festival, unique en son genre, veulent mettre cette année l'accent sur une programmation de qualité. La représentation d'ouverture avait été donnée au Théâtre National pour s'étendre par la suite sur plusieurs scènes de théâtre pragoise, par exemple au théâtre Navinohradek ou au théâtre Činoherní klub. Des troupes de Dresde, Berlin, Zurich et Vienne se présentent pendant le festival. La 16e édition du Salon international de la culture érotique, intitulée Érotisme sexe 2010, se déroulera du 11 au 14 novembre dans l'enceinte du Palais industriel à Prague. Le salon sera accessible uniquement aux personnes âgées de plus de 18 ans. Un mot sur la musique. Un dernier opéra de Jean-Chrétien Bach, Amadis de Gaulle, sera présenté le 1er décembre prochain à l'Opéra d'État de Prague. Cette tragédie de l'11e des 13 films de Jean-Sébastien Bach sera interprétée en version concert par un ensemble de 70 artistes, solistes, chœurs et deux formations musicales, les orchestres Solamente Naturali de Slovaquie et l'orchestre Musica Florea de République tchèque. C'était donc les faits et événements en République tchèque. Notre programme en français se poursuit. À la veille du 21e anniversaire de la chute du mur de Berlin, était organisée par le Comité international de soutien au mouvement palestinien une table ronde sur le thème de la liberté plutôt que les murs. Parmi les invités, l'ancien dissident et signataire de la charte 77, Peter Uhl, qui est au micro dans Claire Veluire.
Panorama.
Panorama.
Peter Uhl, bonjour. Nous sommes à quelques heures de la commémoration du 21e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Vous avez participé ce soir à une table ronde sur les murs contre la liberté. Alors, les exemples utilisés sont donc le mur de Berlin, le mur de Matichny sur lequel nous allons revenir un peu plus tard, le mur entre les États-Unis et le Mexique, et puis le mur enfin, qu'a construit l'État d'Israël contre les Palestiniens. En premier lieu, ces quatre murs, est-ce qu'on peut comparer ces quatre murs? Comment comparer ces murs?
C'est toujours une tentative de diviser, de faire une ségrégation, de séparer, de mieux dominer le territoire qui a à un côté des murs et à l'autre côté aussi. Et c'est bien sûr pas acceptable de nos jours. Le mur de Berlin, ça pesait beaucoup sur les conditions de vie. Je suis allé beaucoup de fois à Berlin-Ouest parce que j'avais une amie qui vivait là-bas, et c'était absurde que le pays, l'État qui s'appelle la République démocratique allemande n'est pas du tout démocratique et pas tout à fait allemande, et peut-être même pas la République. On rigolait à l'époque. Oui, alors pour nous, les autres Tchécoslovaques, au mois de novembre 1989, c'était un encouragement fantastique que le mur de Berlin tombait, parce que nous avons eu quelques jours, je pense deux semaines, même pas, avant la disons les événements, la manifestation qui était au début de la révolution de velours et la dictature. Moi je dis la dictature bureaucratique parce que pour moi c'était la bureaucratie qui dominait les pays de l'Est. Alors pour la bureaucratie soviétique et bien sûr celle de Varsovie, de Berlin, de Prague, de Budapest, etc., il était très important de nous séparer par des petits murs qui c'était des frontières. Parce que on a voulu empêcher tout d'abord le contact entre les gens. Les Occidentaux ne le savent pas, mais par exemple les Hongrois pour eux, il était plus facile d'aller à l'ouest et d'y passer 8 jours ou aussi 2 ans pour les études que de visiter la Tchécoslovaquie ou la Pologne. C'était le régime, le système politique a été préoccupé de nous empêcher dans nos contacts mutuels. C'est pourquoi on s'est rencontrés à la frontière, dans les montagnes. C'était aussi des murs. Et le principe est tombé, heureusement. Et il faut que je le dise, c'est aussi grâce à l'Union européenne, c'est grâce à Schengen, parce que nous nous sentons, bien sûr, c'est égoïste, parce que nous sommes en Europe et il y a les gens ailleurs aussi. Mais nous, en Europe, étant citoyens des pays de Schengen et de l'Union européenne, nous nous sentons libres sur le plan des mouvements, et c'est un plan très important.
Justement, vous parlez des frontières entre les pays, mais on a aussi parlé pendant ce débat du mur de Matičný, qui était un mur à l'intérieur d'un pays, en l'occurrence de la République tchèque. Je rappelle aux auditeurs qu'il s'agissait d'un mur construit dans une ville du nord de la Bohème pour séparer les communautés roms du reste des habitants. Vous êtes connu pour votre militantisme, pour la lutte contre la discrimination des Roms. Est-ce que vous croyez aujourd'hui qu'il sera encore possible qu'un mur pareil soit construit à nouveau en République tchèque ?
Malheureusement, oui, parce que les forces qui sont représentées par l'extrême droite ou par les groupements xénophobes, nationalistes, comme Le Pen en France, par exemple, ou Haider en Autriche, et en Hongrie, mais partout. Ils existent aussi dans la République tchèque. Elles existent aussi dans la République tchèque, les forces. Mais ce qui est encore pire, que les grands partis, soi-disant démocratiques, reprennent trop souvent des mots d'ordre xénophobes ou populistes. Et nous pouvons, bien sûr, attendre, ou plutôt craindre la situation où les tentatives de créer les murs pour les raisons xénophobes seront réalisées ou seront sur la scène. Le mur d'Ustina de la Bohême, c'était un produit de la xénophobie, de l'anti-tsiganisme et, si vous voulez, raciste. Bien sûr, la France a des l'histoire de la protection des droits de l'homme beaucoup plus riche, c'est historique, mais si je me pose la question, je ne peux pas exclure que même en France, un mur comme ça est possible.
Alors vous avez des, on va dire, une histoire personnelle avec les deux premiers murs, donc avec le mur de Berlin, puisque vous avez vécu ici sous la période communiste, et avec le mur de Matičný. Est-ce que vous connaissez un petit peu, ou est-ce que vous avez une expérience avec les deux autres murs qui ont été évoqués, c'est-à-dire celui entre les États-Unis et le Mexique, et puis celui entre l'État d'Israël et les territoires palestiniens?
Quant aux États-Unis et le Mexique, j'étais en 1998 à Tijuana, c'est-à-dire j'étais à San Francisco et Los Angeles et à San Diego, et puis on est allé jusqu'à Tijuana, mais j'ai aperçu les murs plutôt économiques, sociaux et culturels, et non pas le mur, peut-être il n'était pas encore à l'époque pas tellement visible. Mais j'étais en Palestine, à Jérusalem et dans les territoires occupés. Et puis, on a voulu aller à Gaza. C'était à l'époque, c'était janvier de l'année dernière, c'est-à-dire juste après la guerre contre Gaza, mais de la part de l'Israël. Alors, j'y ai vu aussi le mur qui était une protection des riches contre les pauvres. Des citoyens quant à ceux dont on n'a pas besoin, il faut se foutre, il faut se débarrasser d'eux, bien sûr, avec le nationalisme pas tellement formé comme celui en Europe centrale, mais un nationalisme quand même. Alors, bien sûr, c'était à dénoncer. Moi, je suis allé avec la délégation de la FIDH là-bas, Fédération Internationale des Droits de l'Homme, et des juristes internationaux et encore
d'autres personnes. Nous étions une quinzaine et nous étions tous d'accord dans la critique de l'Israël et de sa politique contre les Palestiniens et contre Gaza, bien sûr, surtout.
Une dernière question, c'est ce que d'ailleurs vous êtes en train de dire, ou ce qu'il en est ressorti aussi des discussions, que ce soit le mur de Berlin, le mur américain, le mur israélien, le mur de Matitsny est un peu différent, mais ces murs ne sont jamais infranchissables et ils ont surtout un rôle politique, un rôle symbolique de la part de ceux qui les construisent. C'est comme ça que vous le voyez aussi?
Et oui, je le vois comme ça. C'est un instrument de force, de violence contre les droits fondamentaux de l'homme, de l'individu et aussi des groupes de personnes, parce que les droits de l'homme sont toujours individuels mais à la fois toujours collectifs.
C'était donc le panorama. Claire Valluire a invité au micro Petr Uhl. Et c'est ainsi que se termine tout le programme en français de Radio Prague d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis au revoir. Naschledanou.
En su receptor, Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone en antena su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por la frecuencia de 11.600 kHz. A las 15 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 11.600 kHz. A las 19 y 20 horas UTC, transmitimos para España por los 5.930 kHz. A las 21.30 horas UTC nos pueden sintonizar en España y en América Latina por los 5.930 kHz. A las 0 horas UTC, Radio Praga transmite por los 9.790 kHz. A la 1:30 de la madrugada UTC nos pueden sintonizar en Centroamérica por los 7.410 kHz.